Le débat du jour.
Céline Pellarin.
À 19h40, temps universel, bienvenue dans le débat du jour sur RFI. On va parler aujourd'hui du site Wikileaks qui a ouvert ses portes sur la toile. C'était le 4 octobre 2006. Même s'il a très vite fait fuiter des documents sur la Scientologie, sur le Kenya ou encore sur Guantanamo, il est réellement devenu un acteur important en 2010 avec la publication d'une vidéo intitulée Collateral Damage, une vidéo montrant l'enregistrement d'un hélicoptère de l'armée américaine qui opérait sur le territoire irakien, qui abattait un photographe puis tirait sur une ambulance. Il y eut ensuite le Cablegate fin 2010 avec cette publication de 250 000 télégrammes diplomatiques américains, notamment sur les opérations en Irak, et ils ont provoqué un véritable malaise dans la communauté internationale. Alors depuis 10 ans, ce sont près de 10 millions de documents qui ont été publiés. C'est une masse d'informations, de data considérable. En une décennie, le site a subi une évolution qui est à la fois une conséquence de ses propres révélations, mais également de la personnalité de l'un de ses fondateurs emblématiques, Julian Assange. Le hacker australien aux cheveux blancs qui est l'image de Wikileaks est coincé depuis 4 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la Suède où il est accusé de viol mineur. Dernière grande révélation en date de Wikileaks, c'est la publication de 20 000 mails piratés du Parti démocrate américain à la fin du mois d'août, 3 mois avant l'élection présidentielle. Depuis, Donald Trump a été élu le 8 novembre président des États-Unis et Wikileaks est accusé de faire le jeu de la Russie. Alors avec mes invités, au travers de l'évolution de ce site, ces 10 dernières années, nous allons évoquer cette question, y a-t-il des limites à la transparence ? Alors à mes côtés, Fabrice Épelmois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des médias sociaux et du web social, enseignant dans la section master de l'Université de la Sorbonne-Celsa ainsi qu'au Media Lab de Sciences Po. Également en studio, Olivier Tesquet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions numériques à Télérama et vous êtes l'auteur de « Comprendre Wikileaks » aux éditions Max Milo. Alors, on va débuter avec vous, Olivier Tesquet. Au vu du titre de votre ouvrage, je suppose que vous pouvez, en quelques mots, nous décrire ce qu'est Wikileaks aujourd'hui, sachant qu'au départ, le but premier de Julian Assange était de changer quelque chose au fonctionnement de nos démocraties. Alors aujourd'hui, là, en décembre 2016, est-ce qu'il y est parvenu ?
Alors écoutez, c'est vrai que c'est une question qui est restée un peu ouverte. Je pense que Wikileaks est toujours ce que c'était quand ça a été créé il y a maintenant 10 ans. C'est-à-dire que c'est une plateforme pour soumettre des documents confidentiels qui ne verraient peut-être pas le jour ailleurs. Et au-delà du questionnement pour nos démocraties, je trouve que Wikileaks a beaucoup questionné le travail des médias. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui continue à se maintenir et à avoir lieu de manière assez vive. En témoigne toutes les anicroches qu'il y a pu avoir entre Julian Assange et les médias traditionnels qui au début étaient des partenaires de Wikileaks. Moi, c'est surtout ça l'évolution que je vois, c'est que au début, Wikileaks s'associait au Guardian, au New York Times pour sortir des documents, pour sortir des informations, pour organiser ces espèces de grandes fuites telles qu'on a pu les voir, les premiers mégaleaks un peu comme ça, il y a 5-6 ans. Et puis, il y a eu rupture, il y a eu défiance. Aujourd'hui, Wikileaks se pose clairement en but et en opposition à ces médias mainstream traditionnels.
De masse, voilà. Traditionnelle.
Et aujourd'hui, on en est toujours à se poser cette question-là, c'est-à-dire, est-ce que Wikileaks est un média ? Est-ce que Wikileaks n'est qu'un simple véhicule ? Parce que c'est vrai qu'on les a souvent vus, et notamment à travers Julian Assange, quand il a eu des prises de position, des prises de parole répétées, que ce soit dans les médias, que ce soit via son propre canal, via Wikileaks. Il s'est toujours positionné à la fois comme un média à part entière, lui s'est toujours vu comme un espèce de rédacteur en chef de la plateforme. Hein. Il a d'ailleurs utilisé cette expression-là à de multiples reprises. Et dans le même temps, Wikileaks continue de tenir cette espèce de discours selon lequel il ne serait qu'un véhicule, il ne serait qu'un outil qui serait le moyen pour des informations d'atteindre le public et selon ce vieil adage de l'information qui veut être libre, il serait un véhicule neutre de tout ça.
Alors justement, on va écouter Julian Assange qui, avant d'être bloqué dans l'ambassade d'Équateur à Londres, a arpenté les scènes de nombreuses conférences. C'était le cas en 2010, c'était un TEDx. Et le présentateur, vous allez l'entendre, demande à Julian Assange pourquoi seul Wikileaks révèle ces informations alors que les médias traditionnels, on en parlait, ne le font pas. Écoutez la réponse de Julian Assange.
Yeah, can it possibly be true? It's a worry, isn't it? That the rest of the world's media is doing such a bad job that a little group of activists is able to release more of that type of information than the rest of the world press combined.
Voilà, Julian Assange, un brin moqueur, c'est le moins qu'on puisse dire, qui explique que c'est donc inquiétant si un petit groupe d'activistes arrive à faire le travail de milliers de journalistes, des journalistes qui font mal leur travail, selon lui, such bad job, en allant chercher et révéler des documents compromettants. Fin de citation. Alors Fabrice Épelmois, est-ce que vous êtes d'accord sur cette ambivalence de Wikileaks par rapport aux journalistes? D'un côté, on travaille avec eux, mais de l'autre, on leur tape dessus. là-dessus quand ils vont pas forcément dans le sens de WikiLeaks?
Alors, il y a une évolution dans le temps. Hein. WikiLeaks a commencé, comme le rappelait Olivier à l'instant, à travailler avec des médias, à établir des relations de travail fructueuses pour travailler sur des documents qui sont parfois extrêmement complexes à comprendre et analyser. Et puis, cette relation s'est détériorée au point où aujourd'hui, c'est franchement une confrontation. Et WikiLeaks se pose depuis déjà plusieurs années en une alternative aux médias, ou en tout cas en confrontation face aux médias. Ça, c'est incontestable. Et avec WikiLeaks, il y a eu une vague des leaks qui aujourd'hui dépasse de très loin WikiLeaks, les LuxLeaks pour les plus célèbres de ces dernières années, qui ont mis à nu la réalité de l'Europe, n'ont rien à voir avec WikiLeaks, mais malgré tout, c'est difficile de ne pas relier ces phénomènes de leaks concernant les documents fiscaux qui se multiplient en ce moment avec la vague déclenchée par WikiLeaks.
C'est presque devenu une marque, en fait, emblématique de
WikiLeaks. C'est
devenu
une marque, et dans ces modes de leaks, on trouve des gens qui coopèrent avec les médias. Les LuxLeaks étaient le fruit d'une très grande coopération avec une myriade de médias un peu partout sur la planète. Et pour cause, les documents sont extrêmement complexes, donc ça demande une très grande expertise pour les analyser. WikiLeaks, de son côté, est dans une phase d'opposition aux médias, qui est bien partie pour durer un bout de temps. Et il faut reconnaître qu'effectivement, les relations avec les médias vis-à-vis de WikiLeaks n'ont pas été des plus agréables et des plus amicales d'un côté comme de l'autre.
Alors la différence avec peut-être le data journalisme que finalement WikiLeaks a permis de mettre en avant en divulguant toutes ces données énormes, ces datas sur Internet, c'est que donc c'est une information mais sans filtre, alors que le data journalisme va filtrer, va expliquer les données qui sont mises en ligne. Est-ce que c'est ça la grande différence qui d'un côté on a une transparence totale et complète selon WikiLeaks et de l'autre un journalisme qui va essayer d'expliquer un peu plus au grand public?
Alors, tout ne se prête pas au data journalisme. Il y a certains types d'informations qui peuvent faire merveille avec le data journalisme. Typiquement, des informations de l'ordre de la fuite d'informations fiscales, ça peut tout à fait faire l'objet de visualisation, d'exploration. Et là, le data journalisme a beaucoup à faire là-dessus, en plus d'un travail classique d'investigation qui donne tous les articles qu'on a pu lire sur les LuxLeaks. Il y a d'autres informations qui se prêtent moins au data journalisme. Et là, éventuellement, on peut imaginer, comme l'a fait OVNI à une époque, d'avoir des interfaces d'accès, d'avoir des interfaces d'utilisateurs qui permettent d'explorer la donnée, de la mettre en relation. Mais le data journalisme ne va pas être la panacée universelle qui va permettre de tout résoudre et de transformer les leaks en général en quelque chose d'accessible. Tout n'est pas approprié.
En ce qui concerne donc cette transparence dont WikiLeaks a voulu être le chevalier blanc, l'information partagée entre tous, est-ce que maintenant la réputation de WikiLeaks avec les dernières affaires qu'il y a eu, on pense évidemment à ce qui s'est passé, les Erdogan leaks, il y a eu encore donc là récemment les mails du Parti démocrate qui ont été mis en avant, est-ce qu'on joue le jeu de la Russie ou pas, est-ce que la réputation de WikiLeaks n'est pas écornée justement par rapport à ce grand chevalier blanc de la transparence sur Internet de l'information?
Bah, y a eu une sorte d'effet boomerang. Olivier, c'est-à-dire qu'au début, WikiLeaks effectivement était l'un des premiers à mettre en place ce type de structure. Ça a fait florès dans toutes les rédactions. On s'est creusé la tête un peu pour savoir quel type de plateforme on pouvait mettre en place pour avoir son propre WikiLeaks. Aujourd'hui, les médias se sont complètement acculturés à ça. Après, ce qui s'est passé, c'est que dans ce climat de défiance, est arrivée notamment l'élection américaine. Et je pense qu'un paramètre qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut vraiment prendre en compte et sur lequel il faut insister, c'est une espèce de rivalité extrêmement profonde et vivace entre Hillary Clinton et Julian Assange. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'au moment de la révélation des télégrammes diplomatiques en 2010, Hillary Clinton est secrétaire d'État à ce moment-là. Donc elle est évidemment en première ligne des révélations.
Impactée directement.
Voilà. Donc elle fait des déclarations où elle appelle l'arrestation de Julian Assange, qu'il soit extradé vers les États-Unis, jugé, condamné, etc. Donc elle n'est évidemment pas la seule à le faire à ce moment-là. On a quand même des sénateurs républicains qui veulent l'abattre d'une frappe de drone, hein, clairement. Et donc arrive l'élection américaine quelques années plus tard, et cette espèce de haine recuite contre Hillary Clinton et derrière elle le Parti démocrate se manifeste de nouveau de cette façon-là. Alors après, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'hypothèses, de conjectures qui ont été faites pour savoir si les mails du Parti démocrate avaient été oui ou non fournis par la Russie. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas eu de preuves formelles qui montrent qu'il y a eu un canal entre le Kremlin et l'ambassade d'Équateur pour fournir les documents. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une sorte d'alignement momentané d'idées
Est-ce que c'était une façon d'allier l'utile à l'agréable en tapant sur Hillary Clinton, chef de la diplomatie en 2010
On peut
et maintenant, qui représentait le Parti démocrate à l'élection américaine.
On peut éventuellement le dire comme ça. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu une sorte de superposition ou de juxtaposition entre la défiance qu'on retrouvait chez l'électorat de Donald Trump, chez Donald Trump lui-même, vis-à-vis des élites, vis-à-vis des médias, vis-à-vis de toutes les espèces d'establishment américains.
Bien pensant,
qu'on retrouve également chez Wikileaks, hein, quand il avait son émission sur Russia Today en 2012, où il recevait le banc et l'arrière-banc de l'anti-impérialisme, où il y avait Hassan Nasrallah, Slavoj Žižek, etc. Donc à ce moment-là, les deux se sont un peu superposés dans un mouvement qui est assez étrange, parce que on a cette espèce de réinfosphère assez proche parfois de la droite assez dure, voire de l'extrême droite, hein, qu'on appelle les alt-right aux États-Unis, enfin qui est juste un espèce de cache-sexe pour parler de l'extrême droite, qui tout à coup s'est pris d'amour pour Wikileaks, alors même que quelques années auparavant, c'était leur cible préférée. Quoi. Je me souviens des déclarations d'éditorialistes sur Fox News qui appelaient à l'arrestation, à la torture de Julian Assange, et qui, il y a quelques mois pendant l'élection, voyant les documents qui étaient en train de sortir sur le Parti démocrate, étaient persuadés que c'était un héros et qu'il fallait surtout le pardonner, le rapatrier aux États-Unis et lui donner une médaille.
Il y a eu un basculement en fait, du soutien de Wikileaks de la gauche américaine vers la droite de la droite au fur et à mesure que la campagne américaine avançait.
En tout cas, dans leur audience. On ne peut pas dire qu'il y ait eu un basculement idéologique au sommet de Wikileaks, entre guillemets. Je ne pense pas que Julian Assange soit devenu un instrument ou de Donald Trump ou de Vladimir Poutine en l'espace de quelques mois. Mais l'audience à laquelle il s'adresse, en tout cas l'audience qu'il a pu gagner ces derniers mois, et notamment dans le contexte de l'élection américaine, lui, clairement, a basculé. Oui.
Fabrice Appelpoint, est-ce qu'on peut parler d'opportunisme de la part de Julian Assange en utilisant des informations qui ont été sorties par éventuellement des hackers russes, les utiliser à ses propres fins pour peser sur la campagne, en tout cas toucher au cœur le Parti démocrate qui a pu mettre le doigt sur son travail en 2010.
On peut aussi bien parler de stratégie. Julian Assange a repéré un point de faiblesse et a tapé au bon endroit au bon moment. C'est plus une approche stratégique qu'une simple approche opportuniste. Je crois que c'est construit, plutôt bien exécuté, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été efficace. Pour ce qui est des hackers russes qui auraient volé les emails, rappelons quand même que les méthodes pour les emails, hein, consistaient à faire du phishing, hein, c'est à la portée de beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. La barrière à l'entrée pour faire ce genre d'opération ne nécessite absolument pas d'être un service de renseignement russe. C'est vraiment un groupe d'activistes pourrait tout aussi bien faire de même avec les élections françaises, par exemple.
Alors, pour quelle raison est-ce que, justement, ces activistes peuvent aller chercher ces informations et les donner à Wikileaks avec une idée politique derrière, ou tout simplement d'aller embêter les Américains?
Alors les deux, j'ai envie de dire, d'aller embêter les Américains, il faut quand même bien se souvenir, il y a un sondage Gallup qui a lieu tous les ans depuis une bonne dizaine d'années, où on demande aux populations des différents pays quel est selon vous le pays le plus menaçant pour la paix sur Terre. Mm-hmm. Et depuis 10 ans, les Américains arrivent premiers partout, absolument partout, sauf aux États-Unis évidemment et en Israël. Donc c'est plutôt aller dans le sens de l'opinion publique mondiale, hein, que de s'attaquer aux États-Unis. Ensuite, on a affaire à la réalisation, la concrétisation de l'idée initiale de Julian Assange, qui était de détruire les partis politiques, de soigner la démocratie en détruisant les partis politiques. Est-ce qu'il va soigner la démocratie? C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, voire mal parti. Mais en tout cas, pour ce qui est de détruire les partis politiques, sa méthodologie s'avère d'une efficacité redoutable. Si vous montrez l'envers du décor des partis politiques, il est évident que ça n'a absolument rien de démocratique, voire c'est même l'opposé même de la démocratie. C'est vrai pour le Parti démocrate, mais vous pouvez être sûr que c'est vrai pour n'importe quel parti des grandes démocraties qui s'arrogent l'étiquette démocratique sans réellement l'être.
Au niveau de la transparence, donc Wikileaks le prône depuis ses débuts, est-ce que pour elle-même la transparence fonctionne en fait? Parce qu'on sait bien que maintenant Wikileaks, c'est, avec la personnalité de Julian Assange, un peu trouble peut provoquer certaines anicroches au sein même de Wikileaks. Est-ce que justement ça dessert pas Wikileaks par rapport à son propos et à la mission qu'il s'est donnée depuis le début?
Bah, là-dessus, je crois qu'il faut aussi se rappeler ce qu'a été la guerre contre Wikileaks, notamment après la publication des télégrammes diplomatiques, c'est-à-dire qu'il y a eu une pression considérable et inimaginable qui s'est exercé sur un très petit groupe de personnes, parce que Wikileaks n'a jamais été une plateforme avec des milliers de membres. Alors, Julian Assange s'est toujours amusé à bomber le torse et bander les muscles pour donner l'impression qu'ils étaient multiples, très nombreux, etc. Mais la réalité, c'est que Wikileaks et Julian Assange ne font qu'un. C'est-à-dire que ça a quand même été une plateforme qui a toujours été modelée à son image. Il y a une espèce de métonymie ou encore de superposition entre les deux. Et donc je pense qu'il a tiré des enseignements de tout ça. Et aujourd'hui, il met en place tout un tas de paravents, de stratagèmes pour essayer de se protéger. Et puis l'un des éléments sur lesquels il faut insister aussi, c'est qu'il est dans une situation personnelle qui est extrêmement bouchée. Il y a eu une décision d'un comité de l'ONU qui a estimé que sa détention était arbitraire et que en fait il n'était pas libre de ses mouvements à l'ambassade d'Équateur et que ça pouvait être assimilé à de la détention.
Il y est depuis 4 ans.
Jusqu'à présent, aucun pays concerné, que ce soit la Suède qui cherche toujours à l'entendre dans une affaire de mœurs ou le Royaume-Uni qui l'héberge bien malgré lui, n'ont fait le moindre geste en faveur d'une libération, si on doit appeler ça comme ça. Donc aujourd'hui, il est dans cette espèce d'impasse diplomatico-politique à laquelle il va chercher une issue. Et donc... taper du poing sur la table et puis jeter l'opprobre comme ça sur le Parti démocrate en s'attirant tout à coup les faveurs de la Russie par un espèce de jeu de ricochet plus ou moins calculé, répond aussi à un impératif assez urgent de clarifier sa situation personnelle. Parce que l'Équateur est aussi soumis à des pressions. Hein. Je rappelle qu'on lui a coupé sa connexion Internet brièvement dans les dernières heures de la présidentielle américaine. Pour l'empêcher de nuire. En tout cas, c'était vraiment présenté comme un avertissement. L'Équateur a probablement été mis sous pression par les autorités américaines et a agi en sens. Et puis faut pas oublier non plus qu'il y a une présidentielle en Équateur l'année prochaine et que le successeur de Rafael Correa offrira peut-être moins de largesse à Julian Assange. Donc il est encore une fois dans une situation qui nécessite d'être comme ça très urticant, ce qui par ailleurs est son tempérament assez profond.
Alors au niveau du calendrier électoral qui tombe pour les 10 ans de Wikileaks, est-ce qu'on peut penser que la récupération de cette élection américaine avec cette publication, bon certes il y a une certaine forme de vengeance envers Hillary Clinton et les démocrates, mais est-ce que c'est pas aussi une façon de promouvoir Wikileaks à nouveau, qui était peut-être un peu en perte de vitesse par rapport à d'autres consortiums de journalistes? Il y a eu les Panama Papers, il y a eu, vous l'avez dit, les LuxLeaks. Est-ce que l'utilisation de cette présidentielle américaine, c'est pas pour Julian Assange revenir sur le devant de la scène?
C'est certainement revenir sur le vent de la scène, mais en même temps, quelque part, les LuxLeaks, les Panama Papers, tout ça, c'est les enfants du phénomène WikiLeaks, et c'est incontestable qu'il a lancé une vague.
Il n'y a pas un phénomène de jalousie quand même derrière.
Là-dessus, il y a quand même
de la personnalité.
Il y a quand même une nuance à apporter, c'est-à-dire qu'effectivement, les Panama Papers ou Edward Snowden, dont on n'a pas parlé, mais qui est lui aussi quelque part un enfant fils putatif quelque part de Julian Assange. Je sais pas s'il y a de la jalousie, mais en tout cas, il y a une forme de rivalité ou en tout cas un désaccord sur la méthodologie. Je prends l'exemple des Panama Papers. Les Panama Papers, donc, étaient menés par ce consortium international de journalistes d'investigation depuis Washington dans différents pays, etc. La publication telle qu'elle s'est faite, ça a été un choix rationnel de publier certaines informations, d'en garder d'autres par-devers eux. Choix qu'a toujours vertement critiqué Julian Assange en disant que, un, lui, il aurait tout publié d'un coup, parce que c'était la seule méthode qui vaille à ses yeux, et que, deux, le consortium des journalistes d'investigation était financé par George Soros et donc finalement servait les intérêts américains. Donc on voit bien qu'il y a quand même
des rivalités ou
des désaccords assez profonds. Il y a eu des prises de bec aussi avec Edward Snowden. Donc il y a quand même effectivement cette tension entre WikiLeaks et le phénomène qu'ils ont essaimé.
Vous êtes d'accord avec ça, Fabrice Pellou?
Oui, tout à fait. Il y a différentes méthodologies. Des méthodologies les plus rigoureuses, on va dire, d'un point de vue journalistique, les LuxLeaks en sont un bon exemple, quelque chose de beaucoup plus anarchique dans lequel WikiLeaks donne aujourd'hui.
Merci beaucoup, c'est la fin déjà de ce débat. Merci à mes deux invités, donc Fabrice Pellebois. Je rappelle que vous êtes spécialiste des médias sociaux et du web social, enseignant à la Sorbonne, CELSA, ainsi qu'au Media Lab de Sciences Po, et également avec nous, c'était Olivier Tesquet, journaliste à Télérama, et vous êtes l'auteur de Comprendre WikiLeaks aux éditions Max Milo. Merci également à Pauline Leduc, à Florence Ponce et à Sigrid Azéroal.